Jean de Tinan, Les amphores de Phaidas, Érythrée. Vers le soir, Phrontisdos, le Niobide, vit sur la route un homme dont le visage était caché dans un pli du manteau de laine blanche. Puis il parla ainsi avec emphase. « Passant, j'ai vu autour de ton sourire la lassitude inquiète de ceux qui ne sont pas satisfaits de vivre, et j'ai compris que tu marchais sur les chemins au-devant de la leçon des destinées. La poussière des routes a recouvert sur tes sandales la boue desséchée des marécages. Tu as marché dans les sentiers qui conduisent vers la montagne, et la mousse humide au soir était aussi douce à tes pieds que le sable des grèves dorées où une eau, tout à l'heure invisible, emplissait peu à peu les empreintes de tes talons. Tu es entré dans les villes, mêlé à la foule qui ne remarquait pas ta pâleur. Tu as déposé les guirlandes au seuil de bien des temples, et tu t'es incliné vers le proche des femmes fardées qui le soir te parlaient sur les portes. Si maintenant tu gravissais les marches de la maison blanche où tu vécus, ta vie passée ne reconnaîtrait pas ton regard. Il y a l'indulgence, le reflet des douleurs, et la douceur de tous les doutes. Elle est tombée, la fièvre ardente qui, au jour pourpre de tes curiosités premières, te dressait les tempes en feu en un désir envolé d'une vérité que tu imaginais unique. Et tes indignations ont cessé une à une, parce que tu apprenais à connaître le sens partiel de tout et la sincérité de la sensation seule. Tu t'es affranchi de l'ennui vain de juger les actes pour cueillir d'un geste calme aux beaux arbres du chemin dont les branches ployées viennent effleurer tes cheveux, les fruits mûrs et légitimes des émotions, toutes qui nous font jouir de notre âme. J'ai vu ton sourire, et m'étant approché de toi, j'ai pris ta main et je t'ai découvert mon visage pour que tu t'enrichisses aujourd'hui de ce qu'il m'est donné de signifier. Puis il ajouta, nous nous étendrons tous deux dans une salle fraîche et nue. Nous boirons des vins tièdes dans des coupes de métal et je te parlerai de moi-même. Phrontisdos le regarda. Il était beau, d'une beauté effacée, comme meurtri d'avoir été touché par une infinité de caresses légères. Des rides presque invisibles faisaient songer à des effleurements lointains et à des brises à peine embaumées. Les yeux, sombres au regard bleu, étaient d'une violence adoucie, et la bouche arquée, les lèvres plissées et molles, paraissaient conserver l'empreinte des gerçures anciennes et des paroles murmurées. Le front très pur éclairait ce que les traits ternis auraient pu avoir de trop simplement voluptueux. Les cheveux bruns, mêlés de fils clairs, descendaient un peu bas sur les tempes, et des bandelettes blanches retenaient les caresses. Un des bras, armé d'argent, soutenait les plis du manteau agrafé, et les rubans noués d'un chapeau de paille jaune. La démarche fière semblait imposer une certitude. Ils s'écartèrent à gauche de la route et traversèrent un bois d'oliviers. Dans une étroite clairière, Phrontisdos vit un autel de marbre, puis ils prirent un sentier parmi les hêtres. Ils se tenaient par la main et ne parlaient plus. Lorsqu'ils furent arrivés à la demeure et que Phrontisdos franchit la salle noire du seuil, son compagnon s'inclina et dit « Je me nomme Phaidas, sois le bienvenu. » Phrontisdos quitta ses vêtements poussiéreux et fit couler sur son corps la fraîcheur de l'eau des vasques. Il dénoua ses cheveux et frotta d'huile odorante ses poignets et ses chevilles. Puis il prit la tunique que l'on avait apportée et se fit conduire près de son hôte. Il trouva celui-ci dans une chambre basse où ne pénétrait que peu de clarté. Des fleurs cueillies se fanaient dans les vases d'albâtre, et comme Frontinsdorf prenait un narcisse au cœur d'or, bon, je ne m'en inquiète pas, dit Feidas. Et je laisse à des esclaves que j'ai le soin de garnir à nouveau ces vins grasses. Ces mêmes esclaves se préoccupent aussi de beaucoup d'autres choses compliquées ou simples. Ces choses ne sont pas nécessaires, mais cela croit qu'il faut qu'elles soient ainsi, et ils vénèrent avec tranquillité, comme si elles constituaient quelque rite antique et somptueux, l'un seul attristé d'un ésotérisme oublié à jamais. Puis il indiqua d'un geste, rangé sur un banc de bois noir, sept amphores semblables mais diversement colorées, et d'une voix claire et clamante. Je te parlerai de celle-ci, de ce qu'elle renferme, les cendres, ce qui fut mon passé, l'authentique symbole de mon effort en cette vie. Que les puissances te guident par la main dans une voie autre et plus mystérieuse et irritable, si cependant toutes ne conduisent pas de même à l'ineffable fin. Ils s'étaient assis tous deux sur un siège bas recouvert de cuir dur, et Frondizos, accoudé, le regard fixé aux amphores, écoutait les paroles fiévreuses, les phrases pompeuses ou saccadées. Le prologue achevé, voici, dédié à Pierre-Louis, Érythrée, le soir est lointain où je te vis passer dans un crépuscule de victoire. Les barbares superbes t'entouraient, hurlant des hymnes rauques et brandissant des haches de fer. Le vent des forêts soulevait comme des flammes les mèches ardentes de leurs chevelures, et leurs enthousiasmes bruyants s'exaltaient au trafal triomphal des armures conquises. Lorsque tu passas, ô reine, j'oubliais l'horreur même de mes parents, tout à l'heure massacrés au seuil de la maison de mon enfance, et lorsque je vis ton regard, je ne sentis plus la douleur des meurtrissures de ma chair, et je cessai de haïr le glaive qui avait épargné ma jeunesse. J'adorais en moi-même un délire inconnu, auquel participaient toutes les puissances de ma vie, volupté de quitter l'orgueil amer du vaincu pour l'orgueil plus hautain d'adorer l'excellence du vainqueur. Érythrée, j'ai vêtu devant toi les manteaux écarlates de ma volonté. Lorsqu'au lendemain je parus devant elle, elle se tenait, fière en la rigidité de la robe teinte, devant le trône de porphyre drapé de pourpre saradienne, et l'incarna, de sa bouche entr'ouverte, laisse tâcher son beau visage, pâle et immobile, d'un signe impérieux. Je m'avançais lentement sur les nattes parsemées d'alcées roses. Les soldats haussaient sur mon passage les torches fumeuses, tandis que par intervalles, les cymbales tintaient lourdement. Je marchais la tête haute parce que mon père avait combattu comme les aïeux héroïques, mais en moi haletait un éperdu désir de m'agenouiller sur les marches froides pour étreindre ses genoux aigus en disant les paroles suppliantes. Elle descendit au-devant de moi. À chaque pas, les pierreries de sa robe ajoutaient leur scintillement au bruissement des étoffes froissées. Elle étendit la main et posa les doigts sur la plaie qui saignait à mon front. Elle me prit le bras et marcha vers la tente de soie qui s'élevait au milieu des trophées. Derrière nous, les portières brodées retombèrent. Je me souviens des paroles qu'elle prononça, du rythme de sa voix et de la lenteur nerveuse de ses gestes. « Je suis la fille de la terre, » dit-elle. Je suis venu des contrées lointaines où la neige est teinte de pyrrhine, suivi des hordes invincibles des hommes aux yeux clairs, qui au lendemain des batailles éclatent de rire en frottant de sable les lames tachées de leurs épées. Lorsque nous avons quitté les villes emportées, l'odeur fade du sang emplissait leur silence. Les vieillards ont été tués aux terrasses des jardins des palais, et les prêtresses ont été violées sur le parvis des temples. J'ai connu ma virginité une nuit que les soldats avaient déserté ma tente au fond du sanctuaire du Dieu. Mais j'ai dédaigné l'étreinte maladroite des guerriers et les plis lourds des étoffes épaisses ont masqué la pâle fureur de ma chair. Elle me prit les poignets et se pencha vers moi. Je sentais sur mes lèvres le souffle de ses paroles et l'odeur fauve de sa beauté faisait battre mes paupières. Enfant, je t'ai conquis et tu es mon esprit et tu seras toujours mon esclave, je le veux. Le moyen de ma volupté. Son étreinte s'adoucit en langueur et sa voix devint presque suppliante. Tu enlaceras tes bras sous mes épaules et tu diras le soir les paroles douces que je ne connais pas. Tu caresseras mes cheveux et mes épaules. Et tandis que tu détacheras les agrafes une à une, des désirs de violence m'exaspéreront. Mais tu baiseras longtemps les contours de mes seins, sans t'arrêter à une caresse centrale et précise, et je sentirai mes seins se durcir, et leurs pointes gonflées me seront des brûlures. Lentement, mes dents grinceront à se briser lorsque tu appuieras la main aux palpitations de mes hanches. Mais tu écarteras seulement mes lèvres pour baiser mes gencives, et je crisperai mes pieds nus aux étoffes. Tu sauras, n'est-ce pas, faire se succéder vers les caresses tous les désirs dont la soupe brutale me brise en volupté. Et lorsque tu poseras les mains sur mes genoux, je me renverserai tout entière. Mais tu demeureras un instant encore immobile, le front contre mon bras. Tu sauras, n'est-ce pas, me faire sentir toute mon âme haletante dans la prison sublime de toute ma chair émue, car il faut que l'âme soit en nous éveillée, tout entière, pour accueillir les longues vibrations des spasmes dont elle seule peut prolonger la splendeur momentanée. Ses lèvres tremblaient à chaque mot, et elle ajouta très bas, en croisant les poignets de ses petits bras nus et tendus, je veux la volupté d'être possédée tout entière, et je pénétrerai en toi par les portes de tes six sens. C'est ainsi que les idées se pâment lorsqu'elles sont lentement comprises par l'effort des esprits superbes, et je sais qu'il y a des dieux jaloux qui se lamentent d'être inconcevables et damnés au spasme solitaire. Nos extases à nous sont finies et transitoires, et nous ne serons jamais là de notre éternel élan. » Elle se pencha de nouveau, ses yeux se troublèrent et s'embattirent. Sa voix devint sifflante. « Regarde comme mes lèvres sont rouges, elles sont brûlantes et veulent sentir couler le sang des morsures, mais elles s'écraseront en baisers sous les tiennes lorsque nous aurons prosterné nos chairs aux belles lassitudes. » Et qu'entrelacés pour les sommeils alanguis, nous reposerons en mêlant nos sourires jusqu'au retour attendu de la divine fureur. Elles seront gercées, nos lèvres et nos cœurs meurtris, d'avoir battu si fort. Mais nos yeux, au réveil, luiront sous les paupières lourdes. Veux-tu venger la blessure de ton front en faisant saigner ma chair? Je sentais contre moi, à travers les étoffes, l'ardeur jeune de sa pâleur, et tandis qu'elle parlait, je regardais l'éclair blanc de ses dents humides et ses petites lèvres qui tremblaient. Phaïdas, s'étant levé, renversa vers le ciel la paume de ses mains, puis il toucha sa gorge et prononça très bas quelques phrases. Érythrée, tu parlais de ta chair et je t'ai comprise jusqu'à l'âme, en un désir harmonieux. Tu enseignais qu'il faut sans hésiter accueillir la beauté de l'émotion présente et qu'il ne faut rien sacrifier au passé. Je laissais sans regret les cadavres des miens pour ton corps vivant et par toi, maintenant, tenter l'effort inconnu, car nous ne savons pas mesurer le rapport des apparences. Il n'y a pas lieu de séparer l'âme de la chair et la vertu de la beauté, il faut seulement agir, selon notre sincérité. Il inclina la tête et reprit. Hériterait la petite reine. Sa chair nacrée était si frêle que les places douces étaient presque bleues. Les yeux tièdes, le pli caressant des aisselles et des aines soyeuses, l'intervalle tendre des seins écartés. Ses bras étaient minces par des coudes et ses cuisses étaient minces au-dessus des genoux. À ses chevilles étroites cliquetaient des cercles de corail, et ses poignets, plus minces que ses chevilles, paraient de l'agilité de ses mains sans vagues lorsqu'elles touchaient ses hanches de ses coudes. Les aréoles mauves de sa gorge se dressaient et ses reins fléchis frémissaient jusqu'à la nuque creuse où se séparaient les cheveux tressés et souples. Ses dents pâles luisaient. Ses deux mains rapprochées me serraient le poignet et elle renversait la tête en mordant sa lèvre sans fermer les yeux. J'appuyais ma joue contre l'épaule ronde dont je respirais le parfum un peu rauque. Je tenais un de ses genoux dans ma main et par instant, je sentais l'autre petit talon lisse frapper légèrement ma hanche. Des esclaves libyennes flûtaient doucement dans leur plagiole oblique. Le soir, elle se fit apporter un petit miroir d'étain qu'elle avait et dont la poignée simulait vaguement l'enlacement d'une branche de chêne et d'un rameau de cytis. Lorsqu'il fut déposé près d'elle sur les coussins, elle s'accouda, soutenant de ses paumes mignonnes les tempes délicates et, penchée au-dessus du miroir, elle regarda longuement les simples reflets d'elle-même. Ils apparaissaient attristés de toute la froideur du métal, semblant toujours près de disparaître, s'atténuant de buées légères sous les respirations calmes. Mais, quelque position qu'elle prit, toujours le miroir d'étain ne présentait à ses regards que des fragments du reflet d'elle-même. Elle se penchait davantage ou bien se redressait un peu, et ainsi elle parvenait à voir ses yeux et son front, ou bien sa bouche pâlie et l'ovale amincie du menton. Ses yeux l'effrayaient, ils étaient très grands et semblaient incompréhensiblement meurtris. Ils étaient d'un bleu aussi sombre que la mer d'hiver. Mais elle ne pouvait comprendre quelles étaient ces brumes éclatantes qu'elle voyait passer au fond de leur immensité. Elle crut que ces brumes montaient vers elle du fond de son âme, et elle eut peur. Pourquoi ne parvenait-elle pas voir que des fragments du reflet d'elle-même? Elle jeta le miroir et se tourna vers moi. « Toi, n'est-ce pas? Tu me vois tout entière, tout entière, tout entière !» Je m'agenouillai en touchant ses cuisses, mais elle recula un peu et montra en souriant les étoffes brunies par le sang. Puis elle se jeta contre ma poitrine en tendant la tête. Au milieu de l'armée des barbares, nous vécûmes. Derrière nous, les villes brûlaient dans la nuit, et parfois les soldats appelaient à grands cris ceux des leurs tombés dans les combats, puis ils songeaient qu'eux aussi recevraient quelque jour la dernière blessure. Et ils riaient aux éclats, car leur chef leur avait assuré qu'ils retrouveraient au-delà de la mort la pompe des festins, le tumulte des armes et les pâles vierges éplorées que l'on achève de tuer après les avoir prises. Nous suivions le cours des fleuves et nous traversions les montagnes. Sur les cimes, les aigles s'assoraient, gênés par le frissement des flèches, et les soldats frappaient les boucliers en clamant des menaces. Sur les terrasses des villes vernissées qui s'étachent au bord des mers bleues, dans la fraîcheur monotone des grands éventails de plumes, j'ai connu sa chair d'été. Des gouttes fines de sueur lustraient les toisons touffues, et la peau moite adhérait aux caresses. Nous regardions les dix mâchères combattre sur les dalles glissantes. Elle croisait ses poignets en crispant les épaules. Ses narines se gonflaient à l'odeur des blessures. Et lorsqu'au soir, les juives aux sourcils peints dansaient dans les flaques de sang noir, elle demeurait les yeux fixes en écartant les lèvres. La nuit, elle se jetait contre ma poitrine avec des paroles balbutiées. Dans les forêts fleuries où les oiseaux chantaient la pariade, j'ai connu sa chair de printemps. Les amandes écrasées tachaient ses mains et ses joues plates se teintaient de joie. Nous regardions les bêtes rousses dont la course brusque trouait les fourrés. Elles se serraient contre moi avec des attitudes blotties. Les plis des cuisses serrées s'effilaient vers les hanches. Et lorsque j'avisais ses seins de mes lèvres ou me penchais pour une autre caresse, ses prunelles bougeaient lentement dans les yeux ouverts. La nuit, elle riait doucement en roulant sa tête dans ses cheveux. Dans les hautes salles de palais conquis où s'attachait l'orgueil des rois suppliciés, j'ai connu sa chair d'automne. Elle joignait les doigts au-dessus de sa tête et se dressait comme une statuette de perles. Je regardais la double courbe souple qui suivait de ses chevilles à ses mains. Elle s'avançait fantastiquement dans la clarté des flammes jaunes par un mouvement insensible de ses pieds joints, et ses lèvres murmuraient un sourire qui n'atteignait pas les yeux noyés. La nuit, elle se meurtrissait à moi en gémissant inlassablement son ardeur. Nous effeuillâmes les empires. Nous vîmes un si grand nombre de temples que nous comprîmes qu'il suffisait d'adorer un seul dieu. Et plus tard, nous sûmes que ce dieu était en tout et qu'il convenait de l'adorer en nous-mêmes. La ferveur de notre étreinte fut la plus efficace prière. Nos visages étaient blancs comme la cire, nos ongles mêmes se décolorèrent. Des désirs illuminaient nos faiblesses de la nostalgie de la connaissance. Chaque jour, le nombre de soldats diminuait. D'invisibles archers les visaient au-dessus de l'armure, et parfois, déjà morts, ils demeuraient immobiles, tandis que vibrait encore le trait qui leur traversait la gorge. Un à un, ils s'écroulèrent. Un soir, ceux qui survivaient furent enfermés dans un cercle de montagnes. Quand ils s'en aperçurent, ils tirèrent en chantant leurs larges épées et se ruèrent au défilé défendu. Debout près de moi, Érythrée les regardait combattre. Les boucliers craquèrent sous le poids des pierres lancées. Les casques brisés répandirent les chevelures ardentes. Le long des moustaches claires, des filets de sang séchèrent. Ils redressaient du pied les lames tordues des épées en criant leur dédain joyeux. Un à un, ils s'écroulèrent. Lorsque le dernier, écartant les bras, tomba sur la face dans la boue du combat, Érythrée se tourna vers moi et je reconnus à peine son regard. Peu à peu, son âme s'éloigna de la mienne avec des sourires terrifiés. Et le lendemain, elle mourut en pleurant après avoir tenu devant ses yeux le miroir d'étain qu'elle avait. Lorsque la flamme claire s'éleva au-dessus du bûcher escarpé, je pensais éperdument à elle. Au-delà des belles voluptés que nous eûmes, quelles extases avait-elle entrevues qui se prétendaient suprêmes? Au moment de mourir, s'était-elle aperçue de son erreur, et qu'entre mes bras, elle s'était en vain abandonnée de toute sa volonté? Je songeais au lien mystérieux qui liait son existence à celle des soldats roux qui conquéraient les villes, pillaient, violaient et tuaient en hurlant des chansons naïves. Je lançai le miroir d'étain dans les flammes, le métal fondit et brilla. J'ai recueilli les cendres et le lingot d'étain qu'avaient terni les oxydes. Je les conserve dans cet amphore pourpré, où d'étranges bosselures simulent des pierres rouges inconnues. Je pense à Érythrée sans inutile regret. Féida cessa de parler et regarda son hôte comme s'il attendait une question. Puis il ajouta, « Maintenant, je te parlerai de femmes plus précises, sinon plus réelles. » Diverses notes suivent. Voici la dernière. Un de mes amis, qui lit avec beaucoup de soin ce que j'écris, prétend que Phéidas aurait pu se contenter de dire qu'on l'adolescence aima au gré des décors, parmi les illusions audacieuses, une image rêvée qui mourut de leur mort. Il aurait pu aussi bien souffler des bulles de savon ou jouer un peu de piano. Les bulles de savon crèvent en petites pluies irisées. Il y a aussi les fausses notes. D'ailleurs, il y a mieux, mais c'est plus cher.